Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1, 2 heures de bonne humeur, 2 heures pour apprendre aussi. La compétition se poursuit malgré le confinement avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et les journalistes d'Europe 1. Alors durant cette première heure, on va parler notamment de cette librairie bordelaise qui a gardé le lien avec ses lecteurs via un jeu qui cartonne. On parlera démarchage téléphonique, au programme également un club littéraire original et puis on prendra des nouvelles de la comédienne Leïla Bekti mais aussi de l'animateur de l'émission culte C'est pas sorcier, Jamy Gourmaud. C'est tout de suite et c'était lundi en fait sur Europe 1.
Faute de pouvoir les accueillir en studio chaque après-midi, on prend des nouvelles d'une personnalité. Aujourd'hui, quelqu'un que je connais bien mais que visiblement Eva vous connaissez encore mieux. Oula. Puisqu'à l'issue de l'émission qu'on avait enregistrée avec lui en octobre dernier, vous vous étiez exclamé, visiblement très impressionné.
Il était monté le Gourmaud.
Bonjour Jamy Gourmaud.
Jamy, je suis désolée, j'ai jamais dit un truc pareil.
Excusez, Eva, mais vous êtes dans un programme familial.
Pff, n'importe quoi. Oh là là.
Comment ça va, Jamy Gourmaud? Vous êtes au top, Jamy. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos par les temps qui courent en confinement pour aider les gens. Vous, vos vidéos, elles sont vraiment d'une grande utilité parce que c'est une bouffée d'air frais. C'est dans l'esprit, on va le dire, hein, c'est dans l'esprit un peu de ce qui a fait votre légende avec C'est pas sorcier, quoi. Une pastille, 1 minute 30. Une explication.
Voilà.
Scientifique.
Enfin, scientifique ou pas forcément, hein. Un peu de culture générale aussi, puisque l'autre jour, j'ai expliqué l'origine de l'applaudissement, quelques expressions aussi. Donc, je tire un petit peu tous azimuts, si vous me permettez l'expression.
je vous l'autorise, Eva. Eva pourra la détourner, certainement. Et vous avez donc créé votre chaîne YouTube. Il paraît que c'est une demande des enseignants, ça, carrément.
Ben oui, parce qu'au départ, ces capsules de déconfinés, hein, telles que je les ai baptisées, étaient plutôt destinées à mes réseaux. Mais très vite, hein, au bout d'une petite semaine, j'ai commencé à recevoir des messages d'enseignants qui me demandaient de les rendre un peu plus accessibles. Et le seul moyen de les rendre plus accessibles, c'était de les mettre sur YouTube et de créer cette chaîne qui n'existait pas auparavant.
Résultat, 380 000 abonnés, si je ne m'abuse, en quelques jours.
Ah, c'est pas mal, hein.
C'est vrai que c'est un peu impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Notre invité du jour en ligne avec nous tombe à pic. Dans C'est pas sorcier, il répondait à toutes les questions qu'on se posait. Et là, en cette période de confinement, des questions, on s'en pose plein. Surtout qu'on entend toutes sortes de choses. Jeudi dernier, par exemple, hors antenne, Eva s'exclamait à la stupeur de ses collègues.
Tu sais que t'es pas obligé de te laver tous les jours, hein, quand t'es à la maison.
Bah enfin, Eva.
Bah oui. Je suis désolée.
Alors, que dit la science, Jamy Gourmaud? Est-il vrai, comme le dit Eva, qu'on n'est pas obligé de se laver tous les jours quand on est confiné? Ou bien Eva est-elle simplement une grosse dégueulasse? Je vous laisse répondre à cette question.
Jamy, est-ce que j'ai pas raison?
Vous avez tout à fait raison, vous n'êtes pas obligé de vous laver tous les jours. Après, tout dépend avec qui vous vivez et jusqu'à quand va durer ce tous les jours.
Jamy Gourmaud, non, Eva, ne vous justifiez pas.
Comme
vous êtes seul, vous avez le droit de ne pas vous laver pendant une bonne semaine.
Mais je suis avec Romain Causer quand même, hein, et Rémi Duprat. Voilà.
J'ai des messages de nos réalisateurs qui me disent si elle pouvait se laver, ça serait quand même pas plus mal.
Oh là là.
Jamy Gourmaud, merci d'être avec nous en ligne cet après-midi. D'autant que vous êtes vraiment, vous ne chômez pas. C'est-à-dire que c'est pour certains, ce moment de déconfinement est un moment d'introspection. On prend du temps pour lire. Vous bossez parce que les petites pastilles là, tous les jours, il faut y penser. Il faut les produire aussi. Comment vous vous organisez en fait?
Eh ben c'est en plus du reste en fait, parce que ces petites capsules, souvenez-vous, hein, le 17 mars dernier, on était censé être confiné pendant une quinzaine de jours, bien qu'on imaginait que ça devait durer un peu plus longtemps. On partait grosso modo pour un mois. Là, on arrive aux 50 jours, donc effectivement, c'est un petit peu plus long que prévu, mais en même temps, c'est un vrai défi. Alors comment ça se passe? Ben je me lève très tôt le matin. J'écris entre 6h30 et 7h30, puis je confie le texte, je le lis à ma compagne, mon épouse, qui va imaginer les supports que nous allons utiliser quand il est nécessaire d'en avoir, et elle fabrique ses supports et ensuite on tourne entre midi et deux. Voilà, comment ça se passe.
Alors, parmi les thèmes, alors il y a plein de thèmes récemment que vous avez abordés. Pourquoi la banane noircie? D'où vient le symbole des œufs de Pâques? Comment décolle une fusée? D'où vient la poignée de main? Ça, c'est une question qui nous intéresse par les temps qui courent, vu qu'on n'a plus le droit de se serrer à la pince. D'où vient la poignée de main? Alors, Jamy, ça, c'est vrai qu'une question que je n'ai jamais posée.
Alors, la poignée de main, je crois que les premières traces de poignée de main que l'on a, c'est 4 ou 5e siècle avant notre ère. Il y a déjà sur des stèles funéraires, des bas-reliefs qui montrent des poignées de main.
Ah oui.
Apparemment, la poignée de main serait un geste pour montrer qu'on va rencontrer quelqu'un avec de bonnes intentions. C'est-à-dire que durant l'Antiquité, il y avait beaucoup d'attaques à l'arme blanche, et quand on croisait quelqu'un et quand on voulait aller vers un inconnu simplement pour échanger, eh bien, il était de bon ton de tendre la main et de montrer qu'elle était vide, qu'elle ne tenait pas d'arme blanche. Voilà, ce serait un peu l'origine de la poignée de main, un geste qui aurait été repris ensuite au Moyen-Âge, puisque les chevaliers utilisaient ce geste pour montrer qu'ils n'avaient pas d'arme dans la main. Ils montraient la main droite, hein, celle que l'on se serrait encore il y a quelques semaines, la main droite, parce qu'à l'époque, eh bien, on tenait l'épée de la main droite. Voilà un petit peu l'origine de la poignée de main.
D'ailleurs, Mathieu, maintenant, dorénavant, quand on se reverra, Mathieu, on se serre à la main pour voir si vous n'avez pas une arme cachée.
Ne prenez pas
de
risque, Eva. Mais non, mais vous, qu'est-ce que c'est vous qui voulez ma place, Eva, depuis toutes ces années.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Si je vous dis Oulipo, l'acronyme d'ouvroir de littérature potentielle, un groupe littéraire fondé en 1960 dont l'objectif est la création littéraire par des contraintes. Kezako, on vous explique tout dans un instant avec Mathieu Noël et le monsieur libre d'Europe 1, Nicolas Carreau. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Avec Mathieu Noël et Varoc, et à présent notre expert en littérature, Nicolas Carreau, qui cette semaine a choisi de nous parler d'un club littéraire bien particulier.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, cette émission hybride qui conjugue l'exigence journalistique d'envoyé spécial et le côté spectaculaire d'un show à Broadway. Quatre journalistes s'affrontent, leur mission, vous faire oublier le confinement. Parmi eux...
Un homme canon.
C'est vrai.
C'est pas à vous de le dire, mais c'est vrai que vous êtes plutôt beau gosse. Nicolas Carreau, notre expert littérature, qui a aussi une conscience aiguë de l'entertainment. Il n'y a qu'à voir comment il chauffe ses libraires dans son émission du week-end, La Voix est libre. Même José Garcia, quand il était chauffeur de salle sur Nulle part ailleurs, était pas aussi fort.
Chaque semaine, nous évoquons un roman culte. Salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
Ça vous aurait pas si on refait le bonjour?
Ok, ouais.
Il était un peu...
Oh, on refait le bonjour.
Salut les libraires.
Bonjour Nicolas.
Salut Nicolas.
J'adore, c'est vraiment la deuxième prise qui était la meilleure.
Carrément.
Nicolas Carreau, j'espère que vous êtes aussi chaud que vos libraires, car c'est à vous. Vous nous parlez aujourd'hui d'un club littéraire un peu particulier et qui peut nous aider, qui peut nous changer les idées en tout cas en cette période de confinement.
Qui s'appelle l'Oulipo, O-U-L-I-P-O, c'est-à-dire l'ouvroir de littérature potentielle. C'est une sorte de confrérie.
C'est
de
bien
secte, mais une secte sympa dont les adeptes s'amusent à bouger les codes de la littérature, à jouer avec les concepts et avec les mots. Parmi ses créateurs, on compte notamment quand même Raymond Queneau, c'était dans les années 60. Juste pour dire que c'est pas juste un petit truc rigolo comme ça, il y a pas mal de grands écrivains qui sont passés par là. Alors concrètement, ça veut dire qu'ils s'imposent des contraintes. D'ailleurs, une des définitions de l'Oulipo, c'est que les membres sont des rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. Par exemple, écoutez cette phrase, essayez de l'écrire mentalement dans votre tête.
Voilà.
Anton Voal n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son jazz marquait minuit 20. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est Pérec, le début du livre La Disparition. Il n'y a pas une seule fois la lettre E. Et ça dure pendant tout le roman. On dit ça comme ça vite fait, mais c'est un tour de force. Essayez de faire une phrase, une seule, c'est incroyable. Essayez chez vous, même en l'écrivant, c'est extrêmement compliqué. Alors, un roman en entier, avec du sens, bien entendu. Ça s'appelle un lipogramme, au passage. Ça, c'est pour le Trivial Poursuite. Un lipogramme, c'est un texte dans lequel n'apparaît jamais une des lettres de l'alphabet. Il y a eu un autre exemple, moins connu. C'est le voyage autour du monde sans la lettre A de Jacques Arago.
Plus facile. Alors, sans la lettre.
Ouais, mais enfin, quand même.
Ça sert à quoi, Nicolas ?
Il faut écrire au présent déjà. Parce que si...
c'est un exercice de style, mais ça sert à quoi de se mettre comme ça des bâtons dans les roues quand
des
on est écrit ?
Ouais.
Ben, ça sert d'abord à s'amuser, mais aussi ça sert à bouleverser les codes. Mais il y en a d'autres. Ça, c'est assez connu, le lipogramme. Mais il y a le S plus N, par exemple.
Oula.
Souvent, c'est S plus 7. Je vous explique. Vous prenez un texte déjà écrit et publié, une fable de La Fontaine, par exemple, mais vous remplacez les mots par le septième qui le suit dans un dictionnaire. Ça donne, par exemple, c'est Raymond Queneau, celui-là, la simèse et la fraction. La simèse ayant chaponné tous les terneurs, ce tuba fort dépurative quand la bite sassée fut verdie. Sexuée pétrographique, Morio de Mouffette et de Vera. Je vous lis pas tout, mais vous avez compris l'idée.
C'est génial.
Ça, mais ça sonne
c'était,
bien.
C'était, vous avez reconnu, la
cigale et la fourmi. Mais c'est génial de faire ça avec les enfants pour justement pour qu'ils se baladent aussi dans un dictionnaire et qu'ils découvrent ces mots-là.
C'est exactement ça. C'est un truc d'enfant et c'est un truc de surréaliste. Mais ça permet de s'amuser. Donc pour les enfants, c'est super. Il y a vraiment des choses drôles. Et surtout, si on veut être un peu plus cérébral et analytique, l'Oulipo et toutes ces contraintes et ces jeux mathématiques, parce qu'il y en a plein, ça permet de s'interroger sur la littérature, de sortir des sentiers battus. C'était ça l'idée de départ. C'était lutter contre les automatismes, les phrases toutes faites, les formules qu'on utilise parce que c'est à la mode ou parce que tout le monde les utilise. Avec ces techniques, on est obligé de tout recommencer, de tout réinventer. C'est un laboratoire de littérature.
Ouais, c'est vachement.
Ou quand la littérature rencontre les mathématiques. Merci Nicolas Caro pour cette chronique fort intéressante qui a subjugué nos cerveaux.
Encore fallait-il en avoir un ?
Oui, c'est ça.
Vous en prie, pas d'attaque à dominer.
Europe 1, 16h-18h.
Ils se rendent coup pour coup dans cette fiévreuse compétition qu'on appelle l'équipée sauvage. Et dont un seul journaliste ressortira vainqueur. Vous votez via Twitter pour votre chronique préférée, sachant qu'Eva Rock vote elle aussi. Les concurrents doivent en tenir compte et c'est justement ce qui inquiète Axel de Tarlet, notre prochain candidat, qui a de quoi se sentir démuni après les dernières prestations épatantes d'Anis Mbida sur l'intelligence artificielle et surtout celle de jeudi dernier, dont le thème n'avait pas laissé Eva de marbre pour user d'une litote pudique. Souvenez-vous.
Parce qu'il faut le reconnaître, hein, le sexe à distance a toujours attisé nos fantasmes.
Voilà.
Et c'est un peu l'essence du sexe. Hein.
D'accord.
Vouloir, mais ne pas pouvoir.
Oula, ouais.
Non. Alors Axel, vous sentant, si j'ose dire, impuissant face à ce type de sujet, vous avez décidé de prendre le contre-pied total avec un sujet anti-sexe au possible, combinant chiffres économiques et mauvaises nouvelles.
Bon, d'abord, je tiens à féliciter Anissa Mbida.
Non, Mbida, c'est Mbida.
Dis donc, décidément, j'ai du mal. Hein.
Ah oui, il y a un problème. C'est, avec le confinement, vous perdez les prénoms et les noms. Quoi, voilà,
donc, féliciter M. Mbida, pourquoi ?
Féliciter pour sa chronique où on peut s'auto-licencier par Skype. Ça, je dois dire que là si vous pouvez en faire l'expérience, je dominerai cette équipée sauvage.
C'est moche.
Ça va de plus en plus loin, cette compétition.
Et en plus, il se met à parler de sexe maintenant.
Il
se met à faire son Ève Roger.
Oui.
Alors moi, évidemment, je parle économie,
sexe,
c'est 4 fois moins sexy.
Ouais.
Alors du coup, je vais essayer de faire des petits quiz. J'ai remarqué, ça donne un peu de piment dans mes chroniques.
On est ridicule quand vous faites des quiz, alors allez-y.
Oui, c'est vrai que sur la géographie, c'était
pas
terrible. Avoir mis le Gers à côté de Châteauroux,
oui,
je dois reconnaître
que
c'était pas terrible. Bon, alors, oui, je fais un petit quiz sur les points forts de l'économie française qui sont en train de s'écrouler, pour reprendre l'expression nationale, avec ce confinement. Alors, je vais, à votre avis, quel est, en termes de commerce extérieur, quel est le secteur numéro 1 français?
Le tourisme.
Non.
C'est soit l'alcool.
Le numéro
2, le tourisme.
C'est le luxe, quoi. C'est
perdu.
Oh là, vous êtes...
Mais c'est le vin,
perdu.
C'est le vin.
Non, perdu. Vous l'avez tous cité, sauf le numéro 1.
Mais non, c'est l'aéronautique, évidemment.
C'est l'aéronautique.
Bien sûr.
Ah oui.
Mais oui.
C'est la filière aéronautique qui génère 20 milliards de soldes excédentaires à l'exportation. Eh bien, je n'ai qu'à citer le patron d'Airbus qui a dit récemment que la survie d'Airbus était en jeu. Et puis le problème, c'est que derrière Airbus, vous avez toute une filière. Vous avez, rien qu'à dans la région de Toulouse, vous avez 500 sous-traitants. On est très très fort, si vous voulez, avec les moteurs. Vous savez que ça Safran est numéro un mondial pour les fabricants de, on dit réacteurs dans l'aéronautique. Bref, deuxième secteur qui génère.
Non, attendez, alors, Axel, je vous arrête là. J'ai une question. Si Airbus est à l'agonie avec la crise du coronavirus, que devient Boeing? Boeing qui était au plus mal avec l'affaire du 737, ils étaient complètement dans les choux. Eux, ils devraient déjà ne plus exister. Donc, à un moment, Est-ce que c'est pas un peu excessif de dire qu'Airbus est au bord du gouffre? Moi, je pense que si Boeing existe toujours, Airbus va aller aussi. Hein, et il faut bien qu'il y ait des avions.
Je ne fais que citer Guillaume Faury, le patron d'Airbus, qui a dit qu'il y a dans un courrier interne que la survie de l'entreprise était en jeu. Maintenant, vous avez raison, Boeing aussi va très mal. Mais si je puis dire, Boeing allait déjà très mal avant. Si vous voulez, Boeing était à l'arrêt avant. Donc, quelque part, le confinement, ça ne change pas tellement ce qui se passait sur les chaînes de montage. Le 737 était déjà à l'arrêt. Bon. En revanche, Airbus, son problème il y a 3 mois, c'était de pouvoir répondre à la demande. Maintenant, son problème, c'est de gérer les annulations de commandes. Vous voyez.
D'accord.
Deuxième filière qui va très très mal.
Le luxe.
Non.
Le tourisme.
Impossible.
Le tourisme qui génère 15 milliards de... voilà. Et donc, vous savez que si avis aux Chinois ou aux Américains qui voudraient venir en France, ils commenceront par une petite quatorzaine confinée avant de pouvoir aller sur les plages. Donc, le tourisme va aller très mal. Troisième filière, enfin, qui va... Alors, je ne vais pas toutes les faire, mais la troisième qui va très mal, c'est la viticulture qui rapporte plus de 10 milliards d'euros d'excédent chaque année en export. Vous savez que le vin... alors, il souffrait déjà des surtaxes aux États-Unis, qui est notre premier marché, mais il y a 300 millions d'excédents de litres de vin dont on ne sait que faire. Et vous savez quelle est la nouvelle idée avant les vendanges, là comme les cuves sont pleines, c'est de transformer ces invendus en gel hydroalcoolique. Alors vous voyez,
on en est là.
Du Château Latour en gel hydroalcoolique.
Voilà.
Voilà ce qui va se passer, le luxe à la française.
Voilà, ce qui fait que le Château Latour va être vendu, le gel hydroalcoolique, j'ai vu, ça va être c'est sur la base de 50 centimes le litre, vous voyez, c'est plus tout à fait le même tarif. Et alors, si on regarde par géographie, il y a une région de France d'ailleurs qui était forte sur ces trois secteurs et qui va bien souffrir, hein, j'ai une mauvaise nouvelle pour les gens qui habitent cette région, où l'immobilier
dans le sud-ouest.
Exactement, c'est la région de Bordeaux, où il y a toute la filière, il y a notamment Dassault, Amérignac, etc. Très fort en vin et très fort avec les plages également. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est quand même inquiétant parce que ces excédents, si vous voulez, tout ça, ce sont des secteurs qui exportent énormément, les trois que je viens de citer, enfin, qui génèrent des devises. Et c'est grâce à ces devises qui rentrent qu'on peut acheter ce qu'on n'a pas, qu'on peut acheter du pétrole, qu'on peut acheter des iPhones. Donc, si vous voulez, si la France perd tous ses points forts et n'a plus rien à proposer au reste du monde, à savoir nos plages, nos vins et nos avions, eh bien, comment va-t-on faire pour pouvoir acheter ce que nous ne fabriquons pas, à savoir cet iPhone que j'utilise en ce moment même pour vous parler. Et c'est pour ça que le Premier ministre avait parlé d'écroulement de l'économie. Et alors, vous avez vu que Macron l'a repris, il a dit non, pas ces grands mots. Bah, parce que j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus désespérer Billancourt, comme on dit. Et donc, Emmanuel Macron a préféré l'expression choc, parce qu'on se remet d'un choc, alors qu'on se remet plus difficilement d'un écroulement. Voilà, c'est pas très gai comme chronique, mais ça permet
ça a le mérite d'être une chronique moderne, néanmoins, avec l'expression ne pas désespérer Billancourt, qui effectivement parle beaucoup aux jeunes qui ont rejoint Europe 1 et qui ont quitté Énergie et Skyrock pour nous rejoindre. Merci Axel de Tarlet. Et si je vous dis, Axel, que pour l'instant, dans les votes, vous êtes au coude à coude avec Anissa Mbida, votre réaction? Oh, attention à l'excès de confiance, Axel Lou, attention.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Ce jeudi, Mathieu Noël prenait des nouvelles d'une comédienne qui fait parler d'elle en ce moment, hein, puisqu'elle joue dans la série musicale The Eddie sur Netflix. Rôle inédit, celui de l'épouse de Taha Rahim, son mari dans la vie. Et il s'agit de Leïla Bekhti, César du meilleur espoir féminin en 2011. Oui, c'était pour son rôle dans Tout ce qui brille.
Bienvenue sur Europe 1, 52e jour en confinerie, mais pas de soucis car vous écoutez l'équipe sauvage, l'émission Feel Good par excellence. L'émission qui, chaque après-midi, alors que vous étiez bloqué dans les embouteillages, vous donnait envie de descendre sur la chaussée comme Emma Stone et Ryan Gosling dans La La Land pour danser sauvagement sur les voitures, ce qui, cela dit, aggravait encore l'embouteillage.
Avant que je descende, mon mec.
Désormais, vous nous écoutez confinés chez vous. Moi-même, c'est depuis mon canapé que je présente désormais cette émission qui, en cette période éminemment anxiogène, constitue une véritable bouffée d'optimisme grâce notamment aux bonnes nouvelles dénichées par nos journalistes comme Axel de Tarlet hier.
On va tous crever. Tous les atouts de la France partent en fumée.
Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Comment ne pas être confiant dans l'avenir quand on passe l'après-midi avec nous?
C'est clair. Oh, je suis excitée aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir.
Oui, vous êtes excitée. Je vais vous dire pourquoi Eva est excitée. Car effectivement, c'est une raison de se réjouir cet après-midi. Nous sommes en ligne avec une actrice qu'on adore dans l'équipe sauvage et qui va certainement rebooster nos journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Des journalistes un peu mous, pas très combatifs ces derniers temps.
Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez gagner?
Juste participer.
Participer, fils de pute.
Ça va pas.
Ça va pas quoi?
Rien.
Oh non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir.
Bonjour Leïla Bekti.
Bonjour.
J'adorerais vous avoir comme coach dans vous. L'équipe.
Non mais vraiment, je suis hyper gentille dans la vie.
C'est vrai, bah, quel rôle de composition alors dans Le Grand Bain.
Oui, vraiment.
Déjà, on va parler de la série qui excite terriblement Eva Rock et moi, Ziedi, coproduite par Damien Chazelle, qui arrive sur Netflix demain. Mais déjà, la première question est quand même toute simple. En temps de confinement, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous en ce 52e jour?
Bah, ça va, ça va. Ce serait indécent de me plaindre. Je vis au rythme de ce confinement entre ménage, cuisine, enfant. mais voilà, je me plains pas. Alors, comme je le disais, je suis la seule actrice, je pense, confinée dans le Grand Est. J'ai mon tonton dont je suis très très proche qui a des problèmes pulmonaires et du coup même si je le vois pas le fait d'être à 20 minutes de lui le rassurait et me rassurait. Donc je me suis dit donc voilà, je suis chez ma belle-sœur, on est en famille et voilà, mais après oui, tout va bien pour l'instant, personne n'a été touché dans ma famille donc je me plains pas et puis j'attends.
Et on entend aussi les petits oiseaux autour de vous.
Oui, on entend les oiseaux autour de vous.
C'est sympa.
C'est vrai ?
Ouais,
c'est vrai en plus. Oui. Bah oui.
Ouais. Les oiseaux sont là. Alors voilà. Leïla, demain, c'est l'événement. C'est l'événement. Alors Eva Rock, qui est notre spécialiste média, m'en parlait depuis longtemps. Ouais. C'est Ziedi sur Netflix, une des séries les plus attendues, qui est coproduite par Damien Chazelle. C'est le réalisateur évidemment oscarisé de La La Land. Est-ce que quand Damien Chazelle vous appelle, ça vous étonne encore ou au stade de votre carrière, maintenant tout est possible, ça, finalement c'est normal finalement que le téléphone et que Damien Chazelle vous propose un rôle.
Non, évidemment que ça me... Non, au contraire. Mais puis moi, je l'ai toujours dit, le jour où je ne m'émerveillerai plus, ce sera le début de la fin. Donc non, au contraire, c'est un métier qui est assez fou parce que c'est assez magique. Il peut y avoir effectivement des rencontres auxquelles on s'attend absolument pas. J'avais entendu parler du projet. Et voilà, j'ai passé des essais pour la série et puis quand mon agent m'appelle pour me dire que Damien Chazelle a vu les essais et a dit que c'était qu'on y allait, quoi. Ouais. C'était fabuleux parce que c'est vraiment un réalisateur. Je trouve qu'il se renouvelle. Il fait toujours un truc nouveau. Il a un amour du cinéma qui est magnifique et un amour de la France aussi.
Damien Chazelle, le génial réalisateur de La La Land, a donc tourné pour Netflix les deux premiers épisodes de Ziedi, une série qui se passe en France avec des comédiens français. Pour un des rôles féminins principaux, il a longuement hésité, on peut l'avouer aujourd'hui sur Europe 1, entre Leïla Bekti et Eva Rock.
On a arrêté tout de suite.
Les bouts d'essai étaient très prometteurs.
Ah le cochon, qu'on lui fasse passer l'envie de fuir.
Je le refais.
Oh le cochon qu'on lui fasse passer l'envie de fuir.
Le problème, c'est qu'Eva croyait que c'était un film en costume, un film d'époque. C'est donc finalement Leïla Bekti qui a obtenu le rôle.
N'importe quoi.
Alors Leïla, un mot.
Et parce qu'Eva n'était pas dispo.
Voilà.
C'était un problème de date. Alors déjà, on va expliquer un peu ce qu'est cette série parce que pour Eva, c'était une série de Damien Chazelle. Ce n'est pas entièrement une série de Damien Chazelle. Il est coproducteur. C'est son univers, on va dire, on parle du jazz, on est dans un club de jazz à Paris. Mais il y a d'autres réalisateurs qui participent à cette série. Ouais. Damien Chazelle, il a signé les deux premiers épisodes. C'est ça, en fait. Hein.
Exactement, puis il a eu un droit de regard quand même sur les, les autres épisodes, les réalisateurs.
Sent, hein.
Est-ce que vous êtes excité comme à la veille de la sortie d'un film? Est-ce que c'est le même enjeu? Est-ce que vous avez déjà un œil sur les chiffres? Parce que les chiffres de Netflix sont un peu confidentiels. Alors, vous, peut-être que vous les avez, mais pas nous.
Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je sais que, parce que j'avais déjà fait une série pour Canal+, donc effectivement on a l'audimat le lendemain. Mais je sais pas
jour
du tout
polaire.
Comment ça se passe. Ouais, pour Jour polaire, exactement.
Tiens, c'était excellent ça aussi. Je veux pas rentrer dans la flagornerie, mais ça c'était une très bonne série à revoir aussi.
Ah bah c'est gentil. Mais je sais pas du tout comment ça se passe. Après oui, excité, oui. Effectivement, comme la veille d'une sortie de film, c'est vrai que c'est... Et puis une série, ça prend du temps. Il y a eu 5 mois de tournage.
Ah oui, c'est long.
5 mois et demi même. Ouais, c'était assez long. Et puis il se passe quand même quelque chose. Vous parliez de la manière dont Damien ou même les autres réalisateurs ont filmé Paris. Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé aussi dans la série, c'est qu'il y a une sorte de vérité et c'est très cosmopolite et Paris est cosmopolite. Il y a pas de fantasme en fait. C'est Paris, c'est pas que.
C'est le Paris d'aujourd'hui.
Vous verrez pas la Tour Eiffel.
Que la baguette et la Tour Eiffel.
Exactement.
Donc oui, je suis excitée, je suis émue aussi parce que. On se dit voilà, ça y est, enfin, ça nous appartient plus. Donc on verra quoi, mais bon.
Eva. Vous parlez d'émotion, je me permettrai juste, oui. Parce que chaque épisode en fait est centré sur un des personnages de la oui. série. Le vôtre, c'est l'épisode 3, et je peux pas, évidemment, on peut rien dire, hein, quasiment, parce que c'est très compliqué. Mais vous m'avez fait pleurer vraiment d'émotion, parce que l'épisode qui vous est consacré est absolument incroyable. Vous êtes lumineuse, mais vraiment, j'aime pas trop la flagornerie, mais sincèrement, vous êtes extraordinaire, dont une scène de danse géniale. Oui, Mathieu, je sais, vous êtes jaloux.
Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'on est déjà au bout de cette séquence. Est-ce que vous pouvez rappeler, Eva, le pitch de la série pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà The Eddy, qui n'auraient pas regardé déjà?
Alors, c'est la vie d'un club de jazz qui est dirigé par un musicien, un pianiste, qui ne joue plus depuis des années, qui est très torturé, et on va comprendre au fur et à mesure pourquoi. Et il est aussi dirigé, ce club, par Farid, qui joue votre mari dans la série, Leïla, et qui est aussi votre mari dans la vie, puisqu'il s'agit de Tahar-Rahim.
Plus maintenant. Non, je rigole.
Le confinement a mal tourné.
Exactement.
Donc, qui était votre mari et qui lui s'occupe plutôt des finances. Et voilà, et on va donc suivre l'histoire de ce club de jazz et des gens qui participent à ce club de jazz. Donc, à la fois les musiciens, vous qui jouez la femme du manager de ce club, et puis surtout évidemment du patron pianiste qui est absolument incroyable. Enfin, tous, ils sont tous incroyables. Voilà, c'est vraiment le casting est extraordinaire, vraiment.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Et nous sommes toujours avec Mathieu Noël pour conduire cette équipe est sauvage, accompagné de son acolyte Eva Rock. Alors, si la loi n'a pas réussi à venir à bout du démarchage abusif et d'appels parfois quotidiens, ça peut être pénible, l'avenir s'annonce quand même plus radieux. Explication avec le monsieur innovation d'Europe 1, Anissé Mbida.
Anissé Mbida, aujourd'hui, vous nous offrez un voyage dans le futur. Un futur à la fois attrayant et aussi un peu effrayant.
Oui, la technologie, c'est formidable, sauf quand certains en abusent. Hein. Vous savez, aujourd'hui, quand on a un téléphone portable, tout le monde, on l'a toujours sur soi. Donc, certains en profitent pour vous harcelé au téléphone. Il y a eu plusieurs associations de consommateurs la semaine dernière ont fait une pétition pour monter au créneau. Il va y avoir une loi qui va être votée cette semaine, enfin un projet de loi qui va être voté cette semaine pour régler ce problème. Et moi, j'ai quelques petites solutions technologiques pour éviter de se faire harceler au téléphone. Alors, sur le mobile, il existe sur certains appareils aujourd'hui une fonction qui automatiquement, quand le numéro de téléphone n'est pas dans votre carnet d'adresse, quand c'est un numéro qui est soit masqué, soit qui n'est pas dans votre carnet d'adresse, eh bien on peut demander de le basculer automatiquement sur la messagerie.
Ah, ça c'est vachement bien.
Ça c'est une fonction qui existe de plus en plus.
Mais sur alors, les téléphones fixes, comment on trouve cette fonction?
Ah mais c'est dans les appels.
Ah, c'est
dans les paramètres du téléphone. C'est même pas une application que l'on peut télécharger. C'est sur tous les iPhones quand on met la dernière version et sur les téléphones Android. Sur les téléphones fixes, ça existe également, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des robots qui nous appellent de façon automatique. Eh bien, il existe des téléphones fixes où on peut basculer sur une fonction filtre qui, dès que quelqu'un vous appelle, il va demander à la personne appuyer sur 1 pour parler à une personne, pour
comme
parler
ça,
à quelqu'un.
Le robot ne peut pas appuyer
comme
sur
ça, le robot,
1.
Il ne sait pas appuyer sur 1 et vous êtes complètement tranquille. Encore une fois, ça fonctionne que si le numéro qui est appelé n'appartient pas au canal d'adresse. Et la solution qu'on va avoir demain, qui va être encore plus perfectionnée, c'est un système où c'est l'assistant. Vous savez, on a tous des assistants sur des téléphones portables. L'assistant va répondre automatiquement au téléphone. Voilà, il va répondre automatiquement au téléphone. Bonjour, vous voulez parler à Mathieu Noël? Pourquoi vous voulez parler à Mathieu Noël?
C'est bien ça.
Et en fait, la personne parle à
vous
l'assistant.
Vous êtes baroque? Non, il n'est pas disponible.
Non, mais ce qui est encore plus amusant, c'est qu'il va décrire, il va retranscrire tout ce qui est en train de se dire. La conversation qui est entre la personne qui vous appelle, le télémarketeur et l'assistant, et vous voyez tout s'afficher au fur et à mesure.
C'est encore plus flippant.
Non, parce que si jamais finalement c'est quelque chose d'intéressant, vous pouvez reprendre la conversation.
On reprend la main.
Et exactement comme les vieux répondeurs, vous savez, à l'époque on avait le répondeur et on filtrait avec son répondeur. Ouais. Et bien là c'est l'assistant qui bavarde, qui fait la conversation.
Si c'est une pompe à chaleur mais intéressante, voilà. Pour le coup qu'il y a une bonne promotion, hop, on décroche.
Donc c'est des fonctions qui arrivent. Ça va arriver sur les téléphones Android dans quelques mois.
Mais on est d'accord, tout ce que vous venez de nous dire, c'est pour le télémarketing, c'est-à-dire quand c'est des publicitaires qui nous appellent. Enfin,
c'est toutes les personnes qui ne sont pas dans le carnet d'adresse sont filtrées automatiquement. Donc évidemment, il y a les télémarketeurs, mais ça peut être aussi quelqu'un à qui on n'a pas envie de parler.
Question d'Eva Rock de Paris. Comment se protéger des baratineurs sur Tinder?
Alors ça, le cas typique, c'est la photo de profil. Vous savez, prenez un rendez-vous, vous pensez avoir un rendez-vous avec Brad Pitt ou avec Angelina Jolie, vous vous retrouvez avec Boudère.
Moi, je mettais la photo de Daniel Pennac, je cartonnais à chaque fois. Je cartonnais. Après, j'étais un peu déçu.
Eh bien, aujourd'hui, il va y avoir un système pour valider la photo de profil pour pas se retrouver avec une personne qui est pas seule. Et en fait, c'est un système où on va demander, Tinder va demander de vous prendre un selfie, c'est-à-dire qu'on va se prendre en photo avec
le système. C'est la reconnaissance faciale.
Il va faire de la reconnaissance faciale. Il va analyser votre visage, qu'il analyse en direct, avec la photo de profil, voir si c'est conforme. Et dans ces cas-là, il va valider, il dit le profil, la photo est validée, comme ça on n'aura pas de surprise quand on arrive.
Il faut donc être de face pour la photo de profil.
Joli. Anissa Mbida.
Non, mais pour des raisons de sécurité, c'est quand même vachement bien parce que là, on plaisante avec Tinder, mais c'est vrai que c'est pas mal. Quand même.
Notamment que Tinder commence à rajouter une fonction panique, c'est-à-dire que quand on va à rendez-vous et qu'on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer, eh bien, on donne l'heure du rendez-vous, le lieu du rendez-vous, et quand on arrive au rendez-vous, s'il y a le moindre problème, on appuie sur. On secoue son téléphone, et grosso modo, la police est prévenue automatiquement.
Mais c'est discret devant la personne.
Non, mais on peut le faire dans son sac, dans sa poche, on prend son téléphone, et puis ça danse une alerte automatiquement.
On connaît ici les bloqueurs de pub sur Internet. Il existe un bloqueur de pub à la télé.
Oui, alors ça c'est un petit boîtier magique, c'est tout simple, on le met derrière sa télé, en face à sa télévision, et il va analyser l'écran, et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait la pub, quand le logo disparaît, le logo de la chaîne disparaît, c'est qu'au moment de la pub.
Donc lui,
il surveille le logo, dès que le logo disparaît, pouf, il baisse le son automatiquement de votre télévision, et ça permet d'avoir un espèce de bloqueur de pub automatique sur sa télévision.
Je vous laisse poser la dernière question, l'ultime innovation qui pourrait nous intéresser tous, évidemment, mais... Je vous laisse la parole un petit peu quand même.
C'est important de se protéger après son rendez-vous Tinder. Alors, il paraît qu'il y a des préservatifs qui vont changer de couleur. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Spécial quand même ça.
Alors, évidemment, c'est un préservatif qui protège des MST, comme tous les préservatifs, mais en plus qui est pédagogique. Ça veut dire qu'on va avoir... Le préservatif va passer au rouge quand c'est la syphilis, au vert quand c'est la chaude pisse, ou je ne sais quoi.
Qu'est-ce qu'on fait ? C'est trop tard.
C'est une idée qui vient d'étudiants. Ce sont des étudiants britanniques à qui on a demandé qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pousser, favoriser le port du préservatif. Et eux ont trouvé cette idée-là parce qu'il y a deux utilisations qui peuvent en être faites. La première, c'est pour soi, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le préservatif pour se tester soi-même si on a une MST ou pas.
Ah oui, d'accord, ça fonctionne.
Et on peut aussi le tester sur son partenaire pour, une fois, pour lancer la discussion à l'après avec son partenaire. Tiens donc, les jaunes de préservatif, comment ça se fait ?
Petite discussion sympathique sur l'oreiller.
C'est un peu le problème et l'avantage de la technologie, c'est que ça règle des problèmes. Mais ça en crée d'autres qui vont créer des discussions et peut-être demain créer de nouvelles technologies qui vont régler ces problèmes-là. C'est un peu la course de l'innovation de la technologie.
D'habitude, je pose toujours la question aux journalistes, est-ce que vous l'avez testé ? Là, je n'oserais pas.
Sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Notre compilation des meilleurs moments se poursuit avec Mathieu Noël et Varrock et dans un instant Olivier Pouls pour la recette de notre enfance. Mais avant, un petit coup de projecteur sur la grande librairie Mola de Bordeaux.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage, deux heures dédiées autant à vos zygomatiques qu'à vos neurones, en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1, en duplex de chez eux, évidemment, confinement oblige. C'est d'ailleurs aujourd'hui le 50e jour du confinement. Le monde d'avant nous paraît aussi lointain qu'un film de Méliès. Beaucoup disent que ce confinement est une parenthèse potentiellement bénéfique qui nous pousse chacun à davantage d'introspection. C'est certainement vrai, mais pour tous ceux qui étaient déjà seuls avant le confinement, la solitude forcée ne pousse pas à l'introspection, mais plutôt au fantasme, comme Eva Rock nous le démontrait la semaine dernière, pendant que Stéphane Place réglait son micro.
Je fais un test voix, oui, mais je sais pas, qu'est-ce que je peux te raconter ?
Je sais pas, t'es habillé ou pas, Stéphane Place ?
Alors, Stéphane, même si on peut venir bosser le 11, mon conseil, restez chez vous, ça risque d'être dangereux pour tout individu de type masculin dans la rédaction d'Europe 1. En attendant, on continue de trouver des idées pour se distraire durant le confinement. Alors, en cette période, on aura vu beaucoup de jeux sur les réseaux sociaux notamment. Celui dont on parle avec vous, Stéphane Place, rencontre un succès fou. C'est la grande librairie bordelaise, la librairie Mola, qui en a eu l'initiative sous le hashtag MéliMola. La librairie a commencé fin mars au fil des jours et de plus en plus de monde s'est pris au jeu. Le MéliMola, en quoi ça consiste, Stéphane ?
Alors, en fait, c'est assez simple. La librairie, confinement oblige à fermer ses portes. Et pour garder ce lien avec sa communauté très importante de lecteurs, a imaginé ce jeu en incitant finalement ses lecteurs à revisiter leur bibliothèque, c'est-à-dire aller regarder les livres que l'on a depuis des années et donc observer les titres. Et sur la base de cette observation-là, composer des phrases assez poétiques avec les titres. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le livre, vous regardez le titre sur la tranche... vous empilez ensuite un certain nombre de livres, autant que vous voulez. Ça peut être 3, ça peut être 2, ça peut être 5. Et puis ça donne des phrases d'ailleurs assez jolies. Moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux ma part d'ombre, réparer les vivants dans le jardin de l'ogre. C'est-à-dire, on a pris le bouquin de James Ilroy, celui de Maëlys de Kerangal, celui de Leïla Slimani, et puis vous les mettez comme ça, avec la tranche du livre les uns sur les autres, et ça donne ce genre de phrases. Et franchement, c'est assez joli.
Je vais essayer.
Ouais. Mais c'est assez amusant. Même là, en patientant, pendant que vous expliquiez que j'étais en train de mettre la table et de préparer le barbecue, je regardais moi ma bibliothèque et je trouvais déjà des combinaisons possibles. C'est franchement un jeu très agréable.
Un jour d'été. qu'est-ce que...
Franchement, c'est le jeu le plus réjouissant que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux de ces dernières semaines. Vraiment.
D'ailleurs, vous avez retweeté, en tout cas participé, Eva.
Oui,
et ce que m'a fait remarquer la librairie, c'est qu'immédiatement, ils ont vu l'effet du tweet Eva Rock avec ses 23 000 abonnés. Et ça a relancé
Vraiment. Et je ne savais pas que c'était la librairie. Donc j'en étais désolée d'ailleurs parce que je ne les ai pas cités quand j'ai participé au jeu. Mais je ne savais pas que c'était la librairie Mola qui était à l'initiative de ça. Et donc après, on a évidemment corrigé tout ça, on a retweeté. Mais comme j'ai la chance d'avoir beaucoup d'abonnés qui aiment en plus les livres, et bien voilà, ça a fait beaucoup de joueurs d'un coup. Mais je trouve ça vraiment très très chouette.
Et pour en parler, je vous propose d'écouter Pierre Coutel de la librairie Mola à Bordeaux.
Ça oblige les gens à regarder à nouveau leur bibliothèque. Et en même temps, les gens font des phrases. Alors c'est des phrases qui sont toujours assez amusantes puisque c'est compliqué de faire une phrase pure grammaticalement avec simplement des titres de livres. Mais c'est aussi des phrases qui donnent souvent l'esprit du moment. Des fois, elles sont relatives à l'enfermement. Des fois, elles sont très humoristiques. Par exemple, on en a une avec 4 livres. Alors on laissera après les auditeurs retrouver les auteurs. Donc, Accident nocturne, sur la route, tu verras, la nuit sera calme. Voilà, qui est un moment plutôt doux. Et puis, un autre très amusant aussi, qui est le docteur est malade. Et qui va promener le chien ? Paulette et Roger.
c'est chouette, non ? Enfin, moi, je trouve
c'est
que
génial.
Y a une poésie folle.
C'est génial.
Il y a un deuxième jeu dans le jeu. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez effectivement vous amuser en famille, avec des copains, à dire, mais alors, très bien, qui sont les auteurs ? Ça peut être un test de culture générale aussi. Hein. Là, par exemple, il y a une phrase où on a reconnu Kerouac et Romain Gary, mais j'avoue que les autres titres, j'ai pas tilté. J'ai relevé, tiens, celle-ci aussi, moi, que j'aime beaucoup, cette composition, donc à partir des tranches et des titres de livres. Mon cœur, tu penses à quoi ? Un désir fou de danser sous le soleil de minuit. C'est le livre de Nicole Duburon, Elie Wiesel. Et le dernier, ça doit être, je ne sais plus. Mais enfin voilà. Mais
c'est ça tout l'intérêt du jeu. Quoi. On cherche les titres on cherche les auteurs.
Et en plus, ce qui est vrai, c'est que vraiment, vous regardez votre bibliothèque différemment. C'est-à-dire que vous vous amusez à retrouver des livres que vous aviez oubliés, que vous les aviez dans vos rayons, etc. Enfin, moi, j'ai passé mes 20 minutes délicieuses à faire ça et j'ai envie de recommencer d'ailleurs.
Eh bien, le Mélimola, on vous invite, chers auditeurs, jouez avec nous. Vous nous envoyez vos meilleurs Mélimola sur les réseaux ou directement sur le mail d'Evaroc. On lira les meilleurs.
J'ai celui d'Evaroc. Vous voulez que je le lise ? Moi, celui d'Evaroc, elle n'a pas osé le faire. Je vais le lire.
Allez-y.
Alors, comme pour voir de près, il faut que je quitte mes lunettes 2 secondes. Voilà. c'est terrible l'âge. Le temps, les années perdues, 100 ans de solitude, une vie en mouvement. La vie est ailleurs, mets le feu et tire-toi. C'était le Mélimola d'Eva.
La fin de la phrase vous ressemble beaucoup, Eva.
Mais oui, c'est
très révolutionnaire.
Merci. Moi, en général, sur le feu, je mets plutôt une entrecôte, vous voyez, je m'en vais pas.
Évidemment. Allez, on vous laisse retourner à vos chipots. Merci beaucoup, Stéphane Place, pour ce décrochage littéraire.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
C'est pour beaucoup d'entre vous, chers auditeurs, un classique de l'été, un incontournable de l'apéro, la piscine de rosée. Sauf que pour lui, la piscine de rosée n'est pas un grand verre de rosée avec beaucoup de glaçons dedans, mais une véritable piscine remplie de rosée. Vous l'avez compris, on part retrouver Olivier Pouls dans son domaine bourguignon. Olivier Pouls qui rédige actuellement ses mémoires, comme Montaigne avant lui. Mémoires dont la postérité retiendra certainement cette citation très forte.
Je ne bois pas pour oublier, mais je bois pour me souvenir.
Ah oui, ça lui va bien, tiens.
Bonjour Olivier.
Bonjour mon cher Mathieu, mais vous savez que je vous réserve une place dans ma piscine pour cet été.
Mais j'espère bien, j'ai déjà mes flotteurs.
Eh oui, je vous connais, vous ne serez pas le dernier à plonger.
Non, mon Dieu.
C'est bien me connaître.
Est-ce qu'il y a une recette aujourd'hui, Olivier Pouls?
Bien sûr qu'il y a une recette. Et une recette qui me fait très plaisir, demandée par plusieurs de nos auditeurs. Il vous a pas échappé qu'en cuisine, comme pour le reste, hein, en coiffure, en vêtements, en décoration, il y a des modes. Il y a des plats comme ça qui, dont on parle beaucoup, qu'on sert énormément. Et puis, on ne sait pas pourquoi, à un moment, ils disparaissent totalement de la circulation. Ils ne sont plus à la mode, ils ne sont plus tendance. Eh bien, c'est le cas du plat du jour. C'est le canard à l'orange. Alors, le canard à l'orange, c'est un plat qui a été gastronomisé en quelque sorte en 1945 par un grand restaurateur installé à Paris qui s'appelait Monsieur Lasserre, René Lasserre, qui avait ouvert un restaurant du même nom, qui existe toujours d'ailleurs. Alors, il s'était inspiré d'une recette, pense-t-on, italienne du XVIe siècle, et donc il avait fait ce canard à l'orange dont je vais vous donner une recette assez simplifiée que vous allez pouvoir vraiment refaire chez vous, et vous allez voir, c'est absolument délicieux, parce que ce qui est fantastique dans le canard à l'orange, c'est le mariage entre ce petit côté sucré, mais surtout l'amertume de l'orange et le canard. Alors, prenez bien note pour ce qui est des ingrédients. Il vous faut alors un canard, ou mieux encore, une belle canette, c'est un petit peu plus moelleux, trois oranges amères, un petit peu de fond de volaille, 10-15 centilitres, une carotte, une échalote, une cuillère de miel, un petit peu de beurre, un bouquet garni, et si vous avez un petit trait de Cointreau, c'est parfait. Alors, on va commencer par s'occuper de notre orange. Avec un économe, on va enlever le zeste. On fait attention de ne pas prendre la partie blanche qui elle est trop amère. On va ensuite prélever le jus et on va faire la sauce. Alors, dans une belle cocotte, on fait revenir nos échalotes qu'on a hachées, notre carotte, on rajoute le fond de volaille, le jus des oranges, la cuillère de miel, un petit trait de Cointreau, le bouquet garni, on laisse cuire à frémissement quelques minutes, on pose la canette et on enfourne pour 25-30 minutes suivant la taille de la canette, environ 180 degrés, en prenant soin de très souvent venir arroser l'animal, parce que ça va le nourrir, ça va presque le laquer en quelque sorte. Pendant que ça cuit, on revient avec nos zestes et on va les blanchir pour enlever un petit peu d'amertume. Alors, pour les blanchir, c'est très simple. Une casserole avec de l'eau froide, on met les zestes dedans, on porte à ébullition. Dès qu'on atteint l'ébullition, on égoutte, on enlève l'eau et on recommence l'opération trois fois. De manière à ce que, justement, ces zestes soient un tout petit peu moins. Non, mais ça va très vite.
Et on les
confie très rapidement. Là aussi, on les met dans une casserole, de l'eau à hauteur, deux cuillères de sucre. Quand tout est sec, quand il n'y a plus d'eau et que le sucre s'est bien fondu dans les écorces, c'est terminé. On récupère notre canette qui est cuite, on la découpe, on la tient évidemment au chaud. On filtre notre sauce, on la réduit à consistance sirupeuse. On la monte avec 2-3 petits morceaux de beurre bien froid. Il n'y a plus qu'à servir la sauce sur la canette avec les petits zestes d'orange qu'on vient rajouter. C'est une pure merveille. Et dans la grande tradition de chez René Lasserre, on servait ça avec des pommes soufflées. Et si ça vous intéresse, mes amis, je vous fixe rendez-vous demain sur cette même antenne à la même heure et je vous donne les secrets des pommes soufflées.
Ah, c'est pour demain. Et je crois qu'un ami vous a envoyé une photo d'une idée de dessert pour aujourd'hui. Vous devriez la voir sur votre téléphone portable. Il faudrait le consulter, Olivier. Et peut-être commenter cette photo que vous avez reçue pour peut-être vanter les mérites de ce cuistot méconnu, finalement. Un chef peut-être
alors,
en devenir.
Je l'ai. Alors là je peux faire un commentaire en direct. Je viens de voir effectivement la photo d'un gâteau extraordinaire, un gâteau d'anniversaire.
Extraordinaire.
Ça m'a l'air très ambitieux.
C'est très ambitieux, je peux vous le dire, ça m'a pris du temps.
Je pense qu'effectivement,
le
pâtissier en question, qui s'appelle Mathieu Noël, devrait très bientôt faire de l'ombre au Michalak, Lignac.
Certainement. Cédric Grolet, accroche-toi à ton pinceau, parce que là, je peux te dire que c'est l'anniversaire
Mathieu.
De mon choupi aujourd'hui, 5 mai. Et je peux vous dire qu'avec ma compagne, on a fait une charlotte aux fraises exceptionnelle que nous allons déguster ce soir.
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h, 18h. Europe 1. 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Place à la seconde partie de notre compilation du week-end avec Mathieu Noël, Eva Rock et les journalistes compétiteurs d'Europe 1, confinés mais toujours motivés pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. D'ici à 18h, on va parler des abeilles alsaciennes qui produisent du miel comme jamais grâce au confinement. Si 2 mois de confinement vous paraissent interminables, sachez que certaines expériences scientifiques peuvent durer toute une vie, voire plus. On en parlera aussi. Coup de projecteur sur une chanteuse qui reprend des tubes improbables, mais le résultat est vraiment top. Et puis si le confinement était l'occasion de passer à un dressing minimaliste, les avantages sont légion et on va en parler également. Mais tout de suite, on prend des nouvelles d'une personnalité.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la grande compétition qui chaque après-midi met aux prises les meilleurs journalistes de cette antenne au service de votre culture générale. Une émission à la frontière des genres, pionnière en sa manière, mais si aujourd'hui, devant le CV de notre invité, on se sent quand même tout petit. Oui, aujourd'hui, on peut parler d'une rencontre historique entre deux des plus grands aventuriers au monde. Deux aventuriers suisses. D'un côté, moi, qui non seulement ai survécu 8 ans à Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu.
Déjà une prouesse.
Oui, une c'est une prouesse, c'est vrai. Non,
mais surtout,
vrai.
Moi qui suis entré un jour, je le rappelle, dans la maison des chauves-souris du zoo de Beauval et qui ai fait montre ce jour-là devant mon fils de 7 ans d'un sang-froid légendaire. Je pensais que les chauves-souris étaient derrière une vitre. Ou je suis entré, il faisait tout noir et j'ai senti une aile comme ça contre moi. Tuk-tuk-tuk-tuk. À côté de cette expérience de l'extrême, le CV de notre invité paraîtra bien mince puisqu'il s'est contenté de faire le tour du monde en ballon puis de construire un avion solaire avec lequel il a encore fait le tour du monde. Bref,
ce mec-là, tu le largues au pôle Nord sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement sans une brosse à dents et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos.
Vous pouvez voter au 39-21 pour l'aventurier suisse qui vous impressionne le plus. En attendant, Eva, saluons celui qui nous fait l'honneur d'être en ligne avec nous cet après-midi. Bonjour Bertrand Piccard.
Oui, bonjour. Quel honneur d'être avec vous.
Moi, j'ai entre oui, les deux aventuriers, j'ai une préférence pour Bertrand Piccard. Excusez-moi Mathieu, mais quand même.
Vous préférez le natif de Lausanne plutôt que le natif de Genève,
exactement.
J'ai l'impression.
Eva.
Alors Bertrand, déjà, où êtes-vous confiné? Vous êtes en Suisse, vous êtes chez vous, tout le monde est en télétravail là autour de vous.
Tout le monde est en télétravail. La Fondation Solar Impulse s'est dispersée comme ça dans plusieurs pays. Et curieusement, ça marche extrêmement bien. Il y a moins de temps perdu en voyage, en déplacement. Oui. Tout le monde se concentre beaucoup plus. C'est un nouvel apprentissage. C'est assez impressionnant.
On vous sent très positif. On va en parler un plus longuement, mais déjà, j'ai déjà envie de savoir, est-ce que le fait d'être un aventurier, d'avoir vécu des expériences extrêmes, dangereuses aussi, est-ce que ça vous blinde face à une épreuve comme celle qu'on est en train de vivre collectivement, ou ça n'a juste rien à voir pour vous, ce confinement, par rapport aux aventures réelles que vous avez vécues?
Non, ça a beaucoup à voir. Vous savez, en fait, l'aventure, c'est un peu une crise dans laquelle on se met volontairement. On se retrouve pendu sous un ballon dans un avion solaire ou bien d'autres sous l'eau au pôle Nord, au pôle Sud, etc. Et c'est des situations qui sont irréversibles. On s'est mis dedans et on est obligé de s'en sortir. C'est-à-dire qu'on est obligé de trouver les moyens pour survivre ou pour réussir. Mais ça crée une attitude très positive parce qu'on se dit, il n'y a pas d'autre solution que d'apprendre un outil nouveau qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour s'en sortir.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc un aventurier hors norme qui nous accompagne cet après-midi, Bertrand Piccard. On a tellement de questions à vous poser que je ne sais même pas par où commencer. Déjà, pour ceux qui auraient été confinés avant le confinement ou sur une autre planète, vous êtes le créateur, je le rappelle, de Solar Impulse, cet avion incroyable, totalement solaire, avec lequel vous avez bouclé le tour du monde, histoire de montrer à Airbus et Boeing ce qu'on pouvait faire quand on avait un peu de jugeote. Vous êtes aussi médecin psychiatre. Alors, laquelle de ces deux caractéristiques, aventurier ou psychiatre, vous est le plus utile en ces temps confinés?
Écoutez, les deux, moi, ce qui me caractérise, c'est que j'aime explorer le monde extérieur et j'aime explorer le monde intérieur. Et je crois que on apprend tellement de choses à l'intérieur de soi qui nous permettent d'explorer le monde extérieur, mais quand on se confronte à des situations dangereuses, on apprend énormément de choses sur soi-même. Donc, moi, je ne vois pas comment j'aurais pu fonctionner si j'avais pas été les deux.
Au fond, le mot confinement est peut-être assez impropre à la situation, d'après vous?
Non, c'est effectivement un confinement, mais vous savez, il y a des confinements volontaires, involontaires, imposés. La prison, c'est aussi un confinement.
Bien sûr.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que les prisonniers politiques qui arrivaient à garder en eux la force de la cause qu'ils veulent défendre survivaient mieux au traumatisme de leur emprisonnement ou de leur mauvais traitement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que dans le confinement, si on le considère inutile, et qu'on se dit on n'a pas du tout besoin de ça pour lutter contre le Covid-19, eh bien on va souffrir beaucoup de son confinement, alors que si on comprend que c'est utile pour soi parce qu'on se protège, utile pour les autres parce qu'on protège les autres, eh bien on le supporte beaucoup mieux. Donc il faut toujours replacer dans le contexte des choses qu'on est en train de vivre.
Vous dites aussi cette pandémie est presque symboliquement une vengeance de la faune sauvage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Écoutez, la manière dont on traite la biodiversité, dont on traite les animaux est absolument odieuse. Quand vous allez en Chine sur des marchés populaires et que vous voyez comment les animaux sont présentés, vous avez des brochettes de scorpions vivants empalés sur des baguettes en bois qui sont en train de bouger les pattes avant qu'on les mette vivants sur le grill. Vous avez des chauves-souris maltraitées, des poulets pendus par les pattes. Enfin, je ne sais pas comment on peut décemment traiter des animaux d'une manière aussi cruelle et parfois même sadique, quand vous voyez qu'on rôtit les chiens vivants parce que quand ils dégagent de l'adrénaline, soi-disant, ça rend la viande meilleure.
Ah oui, d'accord.
C'est des choses, ces choses qu'on peut pas imaginer. Et quand tout à coup vous voyez que ce sont ces animaux maltraités qui transmettent le virus à l'humanité, vous vous dites, mais il y a peut-être un retour de la vengeance de la nature.
Il faut donc que cette épidémie soit une leçon pour nous, surtout pas qu'on en sorte identique.
Alors, la leçon,
nos habitudes.
Oui, mais la leçon principale, c'est que le monde que nous avions avant le coronavirus était un monde qui était instable, qui était fragile, qui était polluant, qui était inéquitable, qui était déjà au bord d'une récession. Et aujourd'hui, il faut surtout pas reproduire le monde qu'on avait avant. Il faut que toutes les aides économiques données à l'industrie soient conditionnées à des engagements environnementaux, d'efficience énergétique, d'économie circulaire, de lutte contre la pollution. Sinon, on va retomber exactement dans ce qu'on avait avant.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Gagner de l'espace, faire des économies et réduire l'impact de sa consommation sur l'environnement. Le dressing minimaliste fait de plus en plus d'adeptes et on en parle dans l'équipe sauvage dans un instant.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et à présent Anne Le Gall qui s'est intéressée cette semaine au dressing minimaliste.
Vous écoutez toujours l'équipée sauvage, deux heures à la croisée du journalisme et du divertissement, de l'info et du rire, en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se tirent la bourre pour décrocher la couronne plastifiée mais convoitée de chroniqueur du jour. Notre première concurrente dans cette deuxième manche occupe les avant-postes du classement général. Anne Le Gall, vous êtes notre expert environnement et aujourd'hui vous vous penchez sur nos dressings, des dressings souvent pleins à craquer qui, s'ils pouvaient parler, diraient certainement comme Anissa Mbida dans d'autres circonstances
« Il faut me vider ».
Oui, le confinement, ça peut être le moment parfait pour opter pour un dressing plus minimaliste.
Voilà, parce qu'avec le confinement, vous l'avez constaté, on se prend un petit peu moins la tête pour s'habiller le matin. Forcément, quand on reste chez soi, c'est pas la peine d'avoir la chemise repassée, la cravate. Même les banquiers de la City ont mis leur cravate au placard. Je sais pas ce qu'on pensera Axel de Tarlet, mais c'est quand même un cataclysme vestimentaire.
Bah, Axel de Tarlet, non, il est décroissant, si vous voulez. Donc, il y a deux mois, il était à valeur actuelle. Maintenant, il est décroissant. Donc, forcément.
Il doit être en t-shirt à l'heure actuelle et en short. D'ailleurs, les cabinets de tendance constatent ce changement. La mode est aux tenues d'intérieur. Et parmi les gros succès de ces dernières semaines, il y a les petits hauts chics pour les visioconférences, mais il y a aussi les pantalons de jogging, les shorts, les sweatshirts. D'après les études du cabinet List qui recense les comportements de mode de 9 millions de consommateurs et 12 000 marques vendues sur Internet, la marque Nike est devenue la troisième la plus vendue dans le monde. Elle était 12e auparavant et elle arrive devant Gucci. Et sur les sites de vente de chaussures en ligne, attention, les succès du moment, ce sont les pantoufles, les espadrilles et les tongs.
Les gens mettent des pantoufles.
Eh ben ouais.
Qu'est-ce que vous avez contre les pantoufles, Eva?
Non, c'est rien, c'est que moi j'aime bien être pieds nus, c'est juste ça, c'est très égoïste. Comme
quand le parquet
je n'ai rien contre, voilà. Oui, quand même, je sais pas, j'aime bien.
Voilà. Petite pantoufle pour Mathieu.
Moi je suis team pantoufle. Voilà.
Je sais que vous mettez des pantoufles, je sais, je m'en souviens très bien.
C'est vrai, avançons.
Bon, en tout cas, on sait que les clients achètent moins, c'est logique avec la fermeture des magasins. La plupart des poids lourds du textile comme Zara et H&M ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler. Et donc le confinement, ça peut être l'occasion de s'alléger, de faire le tri. Et c'est peut-être l'occasion de ne garder que l'essentiel, de se concocter une garde-robe capsule minimaliste.
Pardon, c'est quoi une garde-robe capsule minimaliste?
Alors capsule, c'est un terme de fashion victim. Capsule, c'est un ensemble de tenues pour la saison. Donc tout est interchangeable. D'accord. Et normalement ça se suffit, tout s'accorde. Donc là l'idée ce serait de faire une garde-robe qui ne comporte que des vêtements basiques de qualité qu'on peut assortir facilement. Donc en gros on ne garde que l'essentiel. Alors c'est quoi l'intérêt de passer à une garde-robe minimaliste? Il y en a trois selon Caroline Zaleski, fondatrice de marque éco-responsable Atod. Elle donne des conseils via des vidéos en ligne sur Internet.
La première chose, c'est que vous allez gagner du temps. C'est-à-dire le matin, on se pose plus de questions sur qu'est-ce que je mets, je n'ai rien à mettre. Vous avez 30 pièces, vous savez qu'elles sont facilement mixables, donc vous allez pouvoir créer une multitude de tenues. Le deuxième avantage, c'est comme vous allez réduire votre vestiaire, vous n'allez choisir que des pièces de qualité. Des pièces bien fabriquées dans des belles matières dont vous connaissez la provenance. Et enfin, le troisième avantage d'une garde-robe minimaliste, en plus de faire gagner du temps et d'acheter moins, mais d'acheter mieux, c'est aussi que ce sont des pièces que vous allez pouvoir autant porter en semaine que le week-end.
Voilà. Donc c'est simple à dire, le problème c'est qu'avant il faut faire du tri et donc ça revient souvent à ne garder qu'un tiers ou un quart de sa garde-robe, donc le reste on le donne ou on le vend. Il faut privilégier donc les pièces noires, bleues, blancs et cru gris et deux trois couleurs flashy. Donc l'idée c'est d'avoir par exemple trois pantalons de coupe différentes, trois quatre vestes de style différents, des hauts, des t-shirts interchangeables, et normalement avec 30 vêtements on peut être branché sans être frustré. Voilà, il faut juste accepter une règle ensuite, c'est que quand on achète un vêtement neuf, eh bien on se sépare d'un autre.
Et justement, Anne, pour ceux qui auront envie d'acheter des vêtements après le 11 mai, on sait comment ça va se passer, ça ?
Pour ceux qui craqueront, qui voudront aller dans les magasins à partir du 11 mai, si on en croit le guide des bonnes pratiques de la Fédération de l'habillement, il y aura port du masque qui pourrait être exigé à l'entrée des magasins, des cabines d'essayage qui seront désinfectées après chaque passage, et les vêtements essayés, mais non achetés, pourraient être mis en quarantaine pendant 4 heures. Voilà, c'est une façon aussi de rendre la confiance.
Ça va pas être simple.
Ouais.
Merci beaucoup, Anne Le Gall. Donc, trions plus, n'ayons pas peur de nous débarrasser de ces affaires qu'on ne met plus, donnez à la Croix-Rouge, à Emmaüs ou, comme Anne, à une lointaine cousine à qui elle a elle-même donné un surnom sympa.
La petite poubelle.
Oh, on l'embrasse.
Non, mais non.
Bisous, bisous. Il vient tout juste d'avoir 50 ans et déjà une vie dingue derrière lui. Magic Jean-Phi, comme on l'appelait aux States, où il était le correspondant d'Europe 1 à la grande époque, celle où on avait du blé pour payer un correspondant à New York, a également tenu dans ses bras les plus belles femmes du monde. Certaines de ses idylles sont d'ailleurs nées à l'antenne.
Bonjour Mireille Mathieu.
Bonjour Jean-Philippe.
What a life, comme lui disait souvent son pote Jack Nicholson, un peu envieux, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui, Jean-Philippe Ballas coule une retraite heureuse à Malakoff, d'où il continue de traquer pour nous les toutes dernières tendances musicales. Et sans faire insulte à Mireille, Jean-Philippe, ce que vous nous proposez aujourd'hui est un peu plus moderne.
C'est une vraie question, les amis. Vous est-il déjà arrivé d'avoir des frissons, quasi la larme à l'œil, en écoutant une chanson de Patrick Sébastien ?
Alors,
de
la
désespoir
larme à l'œil. Non, de rire, peut-être,
ouais.
Des chansons feel good.
Ouais.
Je vous sens un peu dubitatif. Alors,
oui.
Comme vous, je me croyais à l'abri de pareilles mésaventures, jusqu'à l'apparition sur mon fil Instagram d'une jeune chanteuse au piano avec un air très pénétré comme ça, qui s'attaque à sa manière à cet Everest du répertoire français. Écoutez bien sa version.
Est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les sardines, chante les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ?
Là, c'est pas mal, hein ?
Chante les
c'est super,
sardines.
Oui.
J'adore la montée sur les aromates.
Génial.
On dirait presque du Brigitte.
Ah, mais oui, mais clairement. Ah, mais vraiment.
Oui,
ouais, ça
plein,
fait.
Hein.
Ouais.
Alors, ni une ni deux, je suis allé voir le compte de cette artiste. Et là, eh bien, je me suis aperçu qu'elle n'était pas tout à fait une inconnue. Elle s'appelle Léa Delot. Ça va peut-être vous dire quelque chose, Eva. Il y a quelques années, c'est elle, Léa Delot, qui tenait le premier rôle dans la comédie musicale de France Gall.
Résiste.
Vous vous souvenez ?
Oui, tout à fait.
Ah.
Tout à fait.
Eh ben,
elle est formidable
depuis,
sur scène. Ouais, tout
voilà,
à fait.
C'est pas n'importe qui. Alors, depuis Léa Delot, elle poursuit sa carrière. Et elle fait donc des petites blagues sur Instagram. Alors, je vais passer un coup de fil, vous allez l'entendre. Juste après cet extrait, une autre reprise d'un autre monument de la chanson française. Et là, je vous demanderai de faire un peu silence. Fatal Bazooka.
Voilà.
Fous ta cagoule.
Fous ta cagoule. Fous ta cagoule. Où t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules.
J'ai voulu vraiment faire le truc le plus sérieusement possible avec l'air, comme si je venais de perdre toute ma famille. Enfin. On sait qu'on a tous un côté un petit peu couillon qui est pas forcément exploité, et là c'était vraiment l'occasion pour moi de mêler je dirais musique, le côté mélancolique que j'aime tant, que j'ai du mal à enlever quand je chante, et prendre un peu le contre-pied du truc et faire un truc un peu fun, un peu léger, quitte à paraître un peu ridicule. C'est ce qui me plaît en fait, je pense.
C'est la danse des canards qui, en sortant de la main, se secouent le bas des reins. Ils font coin coin.
Alors, vous, je sais pas, mais moi perso, j'adore son côté couillon, comme
génial.
Elle dit,
ah, oui,
elle
oui,
a de l'eau.
Ah, oui, oui, oui.
Elle y va à fond, c'est quand même extrêmement bien fait, hein, ce que
ah, bah,
vous
oui.
entendez.
Mais
oui, ça sonne très bien. Ouais.
Alors pour finir, justement, je vais vous montrer que cette artiste a surtout beaucoup, beaucoup de talent. Elle a fait un mash-up, c'est un mélange de plusieurs chansons. Sauras-tu les reconnaître? C'est à base de Philippe Catherine et de Sabana.
Non mais laissez-moi, moi, non mais laissez-moi manger ma banane, manger ma banane tenue sur la plage.
Oh là là.
Sur la Mais je ne veux plus jamais travailler. What I gotta do to make you care. Plus jamais au supermarché.
C'est voilà. Génial.
Jean-Philippe, là, on est bien au-delà. On est bien au-delà de la parodie ou des détournements. Il y a énormément de talent derrière et en plus c'est beau. C'est vraiment chouette.
Et c'est pour ça que c'est absolument remarquable. Il faut que tout ce que vous alliez sur le compte Instagram de Léa Delau, D-E-L-E-A-U, voilà. C'est absolument remarquable. Il y a plein d'autres versions. Je ne peux pas tout vous dépasser, mais elle a vraiment beaucoup, beaucoup de talent.
Vous savez ce qu'on va faire, Mathieu? On va essayer de lui passer un petit coup de fil la semaine prochaine pour l'avoir en interview et puis lui demander s'il va y avoir une suite à ce projet. Hein, voilà.
Effectivement, on l'espère.
Formidable.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Ballas, pour cette découverte. Au fait, des nouvelles de Mireille, hein, avec le Covid, on est quand même inquiet.
Je crois
que vous l'avez eu au téléphone hier soir.
C'était peut-être la dernière fois.
Restons optimistes, Jean-Philippe. On l'embrasse.
Laissez Mireille Mathieu tranquille.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
2 heures pour se détendre et faire le plein d'infos avec Mathieu Noël et Eva Rock. C'est l'heure d'ouvrir l'album Souvenir de l'équipe est sauvage. Le 27 janvier dernier, Mathieu Noël recevait l'écrivain Daniel Pénac pour son livre La loi du rêveur, paru chez Gallimard, et dans lequel il embarque le lecteur dans ses rêves.
Aujourd'hui, un grand nom de la littérature française. Il est tout simplement un de nos écrivains les plus célèbres. Eva, je vous le donne en mille.
Molière.
Presque. Daniel Pénac. Bonjour Daniel Pénac.
Bonjour.
La loi du rêveur, c'est le titre de votre nouveau roman, un roman dont vous n'auriez jamais eu l'idée si une ampoule n'avait pas explosé. Est-ce que ça c'est vrai? Parce qu'il y a beaucoup dans le roman, il y a des fausses pistes, il y a des rêves, il y a peut-être aussi des mensonges. Est-ce que le coup de l'ampoule c'est vrai? C'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans la vie?
Oui, oui, oui. Ah oh, bon, oui, pas mal d'ampoules ont sauté dans ma vie. Oui.
Non. Oui. Je sens qu'il est parti pour nous arnaquer.
Ça fait un bruit précis.
Ensemble, on va évoquer votre dernier roman, La loi du rêveur. Simplement, une petite question d'actu avant de démarrer sur la littérature. Les profs ont encore manifesté vendredi. Vous avez été longtemps prof. Est-ce que vous êtes solidaire de ce mouvement? Est-ce que vous les comprenez, vous qui avez vécu le système éducatif de l'intérieur?
Les raisons précises de cette manif, je ne les connais pas. J'arrive d'Italie pour tout vous dire.
C'est vrai.
Mais par principe, j'ai plutôt tendance à les soutenir parce que ils sont très mal payés.
Il faut le rappeler. Contrairement à d'autres pays d'ailleurs, par exemple.
Très mal payés, beaucoup moins payés que dans quantité d'autres pays. Mmh. Et c'est assez embêtant parce que les meilleurs, quand ils en ont vraiment marre, décident d'aller se faire mieux payer ailleurs.
Dans le privé.
Et c'est très mauvais pour l'éducation nationale et pour les enfants. Donc, je suis solidaire avec ces manifs.
Daniel Pénac, solidaire. Alors moi, je me suis régalé ce week-end parce que j'ai lu votre livre, La loi du rêveur. En revanche, ça m'a valu quelques hontes avec mes amis avec qui je passais un week-end parce que j'ai pas su démêler le vrai du faux dans le livre. Alors j'avais bien compris assez vite que, n'est-ce pas, il y avait une dimension de rêve et que vous nous meniez parfois en bateau. Mais comment vous avez eu l'idée de faire un livre sur le coup du rêve, où vous faites le coup du rêve, alors que vous-même, vous l'empêchiez, vous interdisiez ce procédé à vos élèves?
Je l'interdisais, oui et non. C'est-à-dire que à mes élèves en général, j'étais pensionnaire avec mes élèves, et j'ai toujours tenu, moi, le journal de mes rêves, et je leur ai appris à cueillir les leurs. Ce qui, mine de rien, était en douce, comme ça, un exercice d'écriture très intéressant. Tous les matins, et on se racontait les rêves les plus avouables, comme ça on se les racontait. Et donc, j'aurais appris à saisir, à cueillir leurs rêves matutinaux. Mais je leur interdisais la solution du rêve dans les exercices, dans les rédacs. Parce qu'il se serait fait taper sur les doigts au BEPC. Sinon, il y avait un moment, il fallait que l'exercice soit un peu académique. Donc, je leur disais, c'est pas un rêve, hein, ne sortez par cette, pas par cette porte-là. Je suis planqué derrière avec un gros bâton. C'est le réel. Coltinez-vous le réel. Il y a de quoi faire avec le réel.
Il nous donne envie de nous reconnecter avec nos rêves dans son dernier roman. Daniel Pénac est notre invité cet après-midi.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Aujourd'hui, Daniel Pénac pour son dernier roman, La loi du rêveur, chez Gallimard. Alors, dans ce roman, on l'a dit, Daniel, il y a beaucoup de rêves, on passe d'un rêve à l'autre, on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous parlez de vos parents dans ce livre, évidemment, c'est le narrateur qui en parle. Vous dites, mon père et Moon, ma mère, étaient des parents si parfaits que je me demandais parfois si je ne les avais pas choisis moi-même avant ma naissance. Là, on est dans la pure fiction ou il y a une part de réalité là-dedans, dans cette analyse?
C'est une idée que les gosses chérissent.
Ouais.
Quand elle leur vient, ils se disent, oh là là, s'ils s'entendent avec leurs parents, ils se disent qu'ils sont géniaux parce qu'ils les ont choisis eux-mêmes. Et surtout, ça les travaille. Et à tel point que j'avais donné, vous savez, oui, nous, quand on sera grand, les parents que nous serons nous-mêmes, etc. Et à tel point qu'un jour, j'avais donné à mes élèves le sujet de rédac suivant, vous vous réveillez un matin et vous constatez que vous êtes transformé en adulte, complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents et vous constatez que dans la même nuit, ils ont été réduits à l'état de d'enfant. C'est ça. Raconter la suite. Et je disais, et la suite, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas les martiens, vous n'êtes pas sous comme des cochons. Non, non, c'est la réalité. Et alors, du coup, là, ça donnait des devoirs extrêmement intéressants parce qu'ils envisageaient leurs parents enfants. Et certains se faisaient des représentations tout à fait merveilleuses, d'autres réglaient des comptes en traitant leurs parents enfants.
La fessée aux parents.
Et donc oui, ça travaille les enfants, cette idée que du hasard de la procréation, ils aimeraient y être pour quelque chose, quoi.
Eva, vous voulez dire ?
Combien vous avez d'enfants, Daniel Pénac ?
Alors, j'ai une fille.
Oui, et après ?
Et j'ai un certain nombre d'enfants adoptants, c'est-à-dire qui nous ont adoptés comme parents, ma femme et moi, depuis 35 ans. Alors là, il y en a un paquet, oui, il y en a beaucoup.
C'est hyper intéressant, ça ressemble à ce que vous dites sur la famille qu'on choisit.
Oui, c'est
vous l'avez reproduite dans votre vie.
C'est une famille élective, avec des liens entre les uns et les autres qui se sont tissés et qui finissent d'ailleurs par être des liens indépendamment de nous.
Ils peuvent passer des
vacances ensemble, ils bouffent ensemble sans nous, bien sûr.
Et ça forme une grande tribu.
Oui.
On parlait hors antenne, alors je ne sais pas si c'est Anissa Hamida qui vous cirait les pompes juste pour avoir les points, mais en tout cas, Anissa Hamida nous disait qu'il vous écoutait en livre audio, que votre voix le berçait en livre audio. Vous dites à Daniel Pénac que la lecture à voix haute est très importante, que l'oralité, ça peut amener des jeunes à la lecture qui, sinon, n'y viendraient pas.
C'est comme ça que je l'ai pratiqué, moi, en classe. Quand vous êtes devant des gosses qui affirment ne pas aimer lire, si vous les croyez, ils sont foutus. Mais vous aussi, en tant que prof de lettres. Donc, pour les ramener à la lecture silencieuse et solitaire, j'ai volontairement transité par la lecture à voix haute.
Et ça a marché.
Oui, bien sûr, si vous lisez un texte absolument passionnant à voix haute. J'ai fait l'expérience avec Anissé quand il était mon élève. Je lisais Le Vicomte Pourfendu, par exemple, de Calvino. Et à la fin de la nouvelle, j'ai fait semblant d'avoir une syncope. Du coup, il a fini lui-même la lecture tout seul dans son coin.
Ça marche très bien. C'est mieux que le coup du rêve, ça.
C'est encore plus fort.
On est accroché. Cliffhanger, ils ont appelé ça les Américains, mais ouais. Ça existait depuis longtemps.
Évidemment. Alors les amis, c'est l'heure du quiz. Cette petite musique.
Ouais.
C'est un vrai faux très simple sur la famille. On connaît évidemment la famille Malocène
qui a fait qui nous a bercé notre enfance. Hein,
la vôtre aussi.
La vôtre est la vôtre, Mathieu.
Je pensais que c'était la mienne seulement, mais visiblement la vôtre aussi.
Bien sûr.
Voici un vrai faux sur la famille. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, au début des années 1900, la famille Jacuzzi comprend 7 frères, tous spécialistes en hydraulique et dynamique des fluides. La troisième génération inventera 70 ans plus tard le célèbre système de bain à tourbillon. Vrai ou faux? Les Jacuzzi.
vraiment que ça soit vrai.
Les jacuzzi.
Les jacuzzi. C'était pas les japonais en fait. Je sais pas pourquoi.
C'est la gueule, Jacques.
Jacuzzi.
C'est
aussi
Jacuzzi en réalité.
Je vais dire vrai.
Vous dites vrai. Oui, complètement au hasard. Ouais, mais comme quoi le hasard parfois peut être productif. Ouais. C'est vrai. 1956, invention par la famille Jacuzzi de la première pompe à hydrothérapie portable. 1969, Roy Jacuzzi, ça c'est vraiment un nom incroyable, intègre ce système à une baignoire. Les Jacuzzi ont fait fortune aux États-Unis mais viennent du nord de l'Italie. Daniel Pennac, il y a tellement de personnes portant le nom de Andersen en Norvège que le pays a eu 3 premiers ministres à la suite qui s'appelaient ainsi alors qu'ils n'étaient pas de la même famille. Vrai ou faux?
Ça pourrait tout à fait être vrai. Enfin, oui, parce que, voyons, j'en ai connu 2, Jean-Paul Andersen. Il y avait Françoise Andersen et Lucille. Donc il y avait quand même un gars et deux filles. Non, oui, c'est vrai.
C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est particulièrement vicieux. D'habitude, les questions vicieuses, c'est pour vous, Eva.
Oui.
C'est faux, par contre, c'est arrivé au Danemark, en fait. De 93 à 2001, il y a eu 3 premiers ministres appelés Rasmussen, alors qu'ils n'avaient aucun lien de parenté. C'est dégueulasse en régie, hein, faire ça à Daniel Pennac. Ouais. Foutez de ma gueule. Daniel Pennac, Eva Rock, vous répondez en même temps. Les funérailles d'Elizabeth Taylor ont eu lieu en mars 2011. La famille a reçu une dernière volonté étonnante de la part de la défunte. Laquelle? 1. Elle a demandé à ce qu'on joue Heal the World de Michael Jackson pendant la cérémonie. 2. Elle a demandé à ce qu'un caleçon de Richard Burton soit glissé dans le cercueil. Ou 3. Elle a demandé d'être en retard pour l'enterrement car elle était toujours en retard dans la vie.
C'est drôle.
3, c'est moi beau. Je dirais 3.
3 et vous, Eva?
Ah, moi, le caleçon de Richard Burton.
Évidemment. Évidemment, c'est la mauvaise réponse. La bonne est celle de Daniel. Elle est arrivée en retard de 15 minutes car c'était déjà le cas dans la vraie vie. Elle est enterrée.
C'est génial.
Elle est enterrée à Forest Lawn à Los Angeles dans le même cimetière que Michael Jackson, qui peut donc lui chanter Heal the World toutes les nuits. Daniel Pennac, le chameau est de la même famille que le dromadaire. Pour l'un comme pour l'autre, sa femelle c'est la chamelle et son petit c'est le chamelon. Vrai ou faux?
Le petit chamelon? Ah, il me plairait assez, le petit chamelon.
Ouais. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Le chamelon, c'est comme ça qu'on dit.
Pour les deux, pour le chameau et pour le dromadaire. Ah ouais.
Et oui, même en science nat, on apprend des trucs. Eva Rock, attention, c'est la question qui va vous départager. Accrochez-vous, Eva.
Oui, je m'accroche.
La tomate fait partie de la même famille que la pomme de terre.
Oui.
Ah non, on n'a rien entendu, on n'a pas entendu. Ah non. Info incroyable, la tomate fait partie de la même famille que la pomme de terre. Oh là, non, ça sent pas bon cette question. Du coup, il a été possible de faire un croisement. C'est ainsi qu'est née la pomate. Vrai ou faux, Eva?
Oh non, c'est faux, Eva.
Et ça, oui, c'est vous avez tort, c'est vrai. C'est la famille des solanacées, comme les aubergines, les piments, les poivrons. Grâce à un greffage, on a réussi à créer une plante sur laquelle on peut récupérer les tomates cerises et des pommes de terre dans les racines.
Alors, je vais être totalement honnête, j'aurais dit faux de toute façon.
Fascinante nature.
Oui, fascinante nature.
Oui, j'aime bien quand je dis ça. C'est Daniel Pennac qui rencontre Louise. Étonnamment. Fellini, connaissait-il la pomate? Certainement pas, sinon il en aurait fait un film.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage, une compétition qui se poursuit, hein, chacun confiné chez soi avec Mathieu Noël et Varrock et à présent Alain Siroux qui s'est penché sur 3 expériences scientifiques qui peuvent être longues.
Pimper vos neurones sans court-circuiter vos zygomatiques, voilà le cahier des charges ambitieux de l'équipe est sauvage. 2 heures d'une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se surpassent au service de votre savoir et de votre bonne humeur. Or, notre premier concurrent n'est autre que le leader du championnat himself. Actuel directeur de la revue Ciel et Espace, des zones d'ombre dans son CV ainsi qu'un caractère fantasque permettent de penser qu'Alain Siroux a été également fournisseur de crack pour la NASA, bouilleur de crue à Cap Canaveral ou encore préparateur physique sur le Tour de France.
On est en train de fabriquer la potion magique.
Oula, c'est vrai.
Eh oui, les années Festina, que de souvenirs. Alain, aujourd'hui, alors que certains comme Mathieu Charrier perdent patience vis-à-vis de la recherche scientifique qui selon eux devrait avoir trouvé déjà un vaccin contre le Covid afin qu'on puisse tous retourner sans piffrer de Malteser au cinéma, vous nous proposez de relativiser un petit peu la durée des expériences scientifiques.
Ouais, il faut souvent faire, Mathieu, preuve de patience en termes de science et profiter du temps long. J'ai choisi de vous parler de quelques expériences qui vont vous donner une idée. Il y en a une qui correspond bien à l'époque que l'on vit du confinement. Mmh. C'est une étude qui a été faite en 2009 et qui essayait de répondre à une question qui est à la fois sérieuse et loufoque, c'est quel est l'ongle qui pousse le plus vite.
Ils ont vraiment fait ça des avec nos impôts.
Alors, c'est des chercheurs américains, donc c'est pas nos impôts.
Ah bon, ça va. Ah,
c'est des chercheurs américains, c'est pas grave.
22 cobayes pendant 3 mois qui vont faire des encoches sur leurs ongles, aux mains et aux pieds, pour mesurer la croissance. Alors, je vous donne le résultat.
Oui.
D'abord, les ongles des mains poussent plus vite que ceux des pieds. Deuxième résultat, l'annulaire est le doigt le plus, où l'ongle pousse le plus rapidement, alors que l'auriculaire est le plus faible.
Ah bon?
Et puis, il n'y a pas de différence entre la main droite et la main gauche. Voilà, vous avez le résultat du test sur 3 mois.
Et est-ce qu'ils ont fait un test sur des gauchers et des droitiers? Parce que, attention, moi j'aurais fait une branche de contrôle, comme on dit, hein, comme on dit dans le milieu de la science, hein, pour vérifier.
Vous aviez presque l'occasion de le faire, Mathieu, là. Hein.
Donc, ils ont mis 3 mois à faire cette analyse,
oui,
qui sert à quoi, en vrai?
Ça fait partie des études.
D'accord.
Comme dit, sérieuse et loufoque.
Ouais.
La plus extraordinaire, sans doute, c'est celle qui a démarré en 1927 à l'université de Queensland en Australie. C'est un professeur qui s'interroge sur la poix. Vous savez, la poix, c'est cette espèce de matière collante qui ressemble à la fois à du bitume, à du goudron, vous voyez.
Ah oui, Eva, à la fois qu'elle m'a invité chez elle, elle m'a fait à dîner, ça ressemble un petit peu à cette consistance. C'est de ça que vous parlez?
Non, c'est parce que vous avez dit poix.
Avançons.
Et le prof se demande si c'est un solide ou si c'est un liquide. Et pour savoir ça, en fait, il va fondre de la poix, il va la chauffer, il va la fondre. Il va la couler dans un entonnoir en verre qui bouche à l'extrémité. Il va laisser refroidir 3 ans quand même, il ne faut pas exagérer.
Oh, ah oui,
et puis au bout de 3 ans, quand tout est bien figé, il va enlever le bouchon comme si on vidait une baignoire. Mais oui, c'est figé. Et il va attendre que une goutte tombe. Il va attendre 3 ans.
Encore 3 ans? 3 ans de plus.
8 ans, excusez-moi.
Ah
8
ans. 8 ans.
8 ans.
Ouais.
La première goutte va tomber en 1938. Et puis après en 47, en 54, etc. Et en fait... L'expérience est toujours en cours, je vous signale.
Elle est aujourd'hui? Il y a toujours la petite bouteille?
Exactement. On attend la 10e goutte et on s'est rendu compte. Alors, plusieurs autres expériences ont tenté de faire la même chose, n'ont pas trouvé les mêmes résultats. Et aujourd'hui, on pense que la poix a une viscosité, comme on dit, c'est-à-dire une vitesse d'écoulement qui est 230 milliards de fois supérieure à l'eau. C'est comme si c'était plus visqueux de 2 milliards de fois plus que le miel, par exemple.
Ah oui, c'est pas qu'un
peu. C'est une expérience scientifique qui s'étale déjà sur 93 ans. Et pour vous faire rire, il y a une webcam qui a été braquée dans sa direction en l'an 2000.
Ah oui, en attendant la goutte.
Et le jour où la goutte est tombée, elle était en panne.
Oh non, c'est pas vrai.
Et attendez, il y a encore plus ancien comme expérience.
Alors oui, la plus ancienne, elle date de 1840. Alors ça, c'est extraordinaire, ça s'appelle la sonnette électrique d'Oxford.
Non mais elle continue pas.
Ah si, si. Ça s'appelle... Mathieu, c'est une pendule métallique. C'est un pendule métallique qui oscille entre 2 cloches, hein, qui les fait tinter, et qui a déjà sonné plus de 10 milliards de fois. Mais elle est alimentée par 2 piles. Donc c'est vraiment les piles inusables, hein, la batterie la plus durable au monde, dont on ignore la composition. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle sonne depuis 180 ans, et on va devoir encore attendre très longtemps sans doute, avant qu'elle s'arrête et qu'on l'ouvre pour savoir de quoi elle est composée. Vous imaginez, c'est une expérience presque par défaut, c'était pas l'idée de départ, mais au bout de 180 ans, on se dit, mais de quoi elle est composée? Je trouve que c'est vraiment formidable,
mais 180 ans d'expérience. Mais qui va prendre la décision d'arrêter l'expérience et un jour d'ouvrir?
Non,
ils attendent qu'elle ait fini la sonnette.
Ah non, vous perdriez tout l'intérêt de l'expérience.
D'accord. Ah bah, oui. J'aurais pas pu être scientifique. Bon.
Ah bah,
et il y a un record. Quel est le record de l'expérience la plus longue?
Alors, pour moi, il est en cours. C'est-à-dire qu'en 1974, donc il y a 46 ans, ça ne fait pas beaucoup, hein, par rapport à ce que je vous ai dit, les radioastronomes ont envoyé un message avec un télescope en direction de l'amas d'Hercule. Donc, c'est un groupe d'étoiles, de millions d'étoiles, qui est à 22 200 années-lumière exactement, et qui dit « Coucou, nous sommes les terriens, nous sommes là, bonjour, est-ce que vous allez bien? On est gentils et tout. » Il va falloir 22 200 ans pour que ça arrive. Et imaginez, donc, on va écouter, admettons qu'il y ait une réponse, on écoutera dans donc 44 400 ans une réponse, et si la réponse est répétée, j'ai pas bien entendu, vous imaginez ce que ça donnera.
C'est ce qu'ils appellent un dialogue de sourds. Mais quand je pense qu'il y avait quand même eu sur Terre des auteurs comme Flaubert, Balzac, Tennessee Williams qui ont écrit des choses magnifiques, et que le message envoyé donc aux extraterrestres est donc coucou, c'est nous les terriens, répondez-nous si vous avez, on est gentil. Je pense qu'on aurait peut-être pu trouver mieux. Hein. Bon,
allez.
Merci Alain Sirou pour toutes ces expériences qui effectivement nous permettent de relativiser le temps de création de vaccins contre le Covid-19. Merci Alain Sirou.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1.
L'équipé sauvage.
Baisse de la pollution, suspension des travaux agricoles. La réduction des activités humaines offre des conditions exceptionnelles aux abeilles. Et oui, le confinement profite à nos butineuses. On en a parlé cette semaine avec Mathieu Noël, Eva Rock et Arthur Mbaché. Mais avant, on prend de vos nouvelles. Oui, vous, les auditeurs.
C'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe en ce 49e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail de mon éternel complice, Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Un petit coucou pour vous raconter notre confinement dans l'Oise. Le plus difficile, c'est de plus recevoir ses amis, sa famille et surtout ses enfants. Depuis samedi, plus de bricolage. Un horrible petit tabouret avec qui j'étais en bon terme s'est retourné et m'a fait tomber à la renverse dans ma cuisine. Et voilà, dimanche, urgence. Et me voilà plâtré pour 3 semaines. Une grosse entorse. Donc le confinement va durer un peu plus longtemps pour moi. Je vous embrasse tous les amis, je vous fais des gros bisous et vous souhaite tous bon courage. À bientôt, bisous de Claire.
Eh ben Claire, on vous embrasse très très fort évidemment parce que ça ne va pas être très rigolo cette période. Et j'ai une petite surprise pour vous Mathieu et pour tous les auditeurs. On a reçu un message d'un certain Philippe Croizon. Écoutez ce qu'il a à nous dire.
Ouais. Bonjour l'équipe sauvage. Bonjour Eva, bonjour Mathieu. Alors, le confinement, moi je l'ai connu en 1994 quand j'ai eu mon accident. J'ai vécu 2 ans en milieu hospitalier. Avant le confinement, je faisais une conférence tous les 2 ou 3 jours sur l'optimisme, sur le « tout est possible ». Et pour continuer ces moments de partage, je réalise des tutos un peu humoristiques, mais avec de l'humour surtout bienveillant. Par exemple, un tuto « comment bien se laver les mains ». Et en ce moment, vu que j'ai pas mal de temps, j'écris mon seul en scène avec Jérémy Ferrari. On passe beaucoup de temps, on a des éclats de rire et on réfléchit surtout comment réaliser ce one-man show. Et également, quand c'est l'heure du repas, avec nos enfants, on allume nos ordinateurs. On a 5 enfants, les enfants sont dispatchés un petit peu partout à travers toute la France. Et on allume nos ordinateurs et on fait un repas de famille. Bon, je vous raconte pas un peu la cacophonie pour se comprendre avec les visioconférences. Et je terminerai là-dessus, les amis, vous savez... L'humanité a toujours rencontré des grosses difficultés, mais il en est toujours sorti quelque chose de positif de tout ça. Donc encore une fois, il faut croire au possible, et ensemble, on va y arriver. Et surtout, j'espère vous rencontrer un de ces jours, en vrai. À bientôt.
L'optimisme légendaire de Philippe Croizon, qu'on remercie infiniment. Voilà. Et donc, il vient de nous donner une info aussi, c'est qu'il prépare son one-man show avec Jérémy Ferrari.
Avec Jérémy Ferrari.
Hâte de voir ça. Ouais. Franchement, ça va être pas mal. Hein. Ouais, exactement.
Ouais, ça va être quelque chose. Merci à tous. L'équipe est sauvage continue.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Une compétition dominée depuis quelques semaines par le talent aussi insolent que nonchalant d'Arthur Mbaché, notre correspondant dans l'Est, qui enchaîne les victoires avec la décontraction rieuse de Michael Jordan écrasant la NBA dans les années 90, sous l'œil torve et jaloux de ses concurrents qui commencent à perdre patience, notamment Axel de Tarlé, notre expert éco, qui la dernière fois a carrément déposé une réclamation.
Si je peux me permettre, j'ai une plainte en concurrence déloyale contre monsieur Mbaché Arthur. C'est pas une chronique journalistique, c'est un sketch humoristique qu'il a fait.
Ah, le rabat-joie.
Arthur Mbaché, vos chroniques sont souvent du miel pour nos oreilles, mais particulièrement aujourd'hui.
Je vais faire du sérieux pour que Axel puisse perdre, mais à la loyale aujourd'hui.
Ah, ça commence.
Alors, je vais reprendre les termes d'un apiculteur, en effet, alsacien, dans les Vosges du Nord, qui parle pour cette année, pour ce qui se passe en ce moment même, de rentrée de nectar exceptionnel et de mielée intense.
Oh, tout un programme.
Tous les jours, de gros volumes, plusieurs kilos. Vous savez qu'une ruche, c'est composé de plusieurs étages, si on peut dire, des cadres qui sont installés l'un à côté de l'autre. Eh bien, quelques heures suffisent pour remplir un seul cadre de miel. En 20 ans de métier, me dit ce producteur alsacien, j'ai jamais vu ça. Et c'est pareil chez tous ses collègues.
Mais alors, c'est quoi la cause de cette situation exceptionnelle? Le confinement?
Absolument. Pas que, mais c'est un facteur ultra important. Alors c'est vrai, on va d'abord voir les autres facteurs qui n'ont pas de rapport avec le confinement. La principale, c'est la météo. Au début du printemps, il a fait bien moche. En tout cas, il a beaucoup plu, de quoi imbiber les sols, faire plaisir aux plantes. Et grosso modo, même si là, ça fait quelques jours qu'il fait un peu moins beau, mais depuis le début du confinement, il a fait méga beau. Les abeilles sortent tranquillou ici en Alsace et tombent sur des fleurs au top. Et puis, Je ne sais pas comment c'est chez vous en région parisienne, mais ici en Alsace, on est sur une grosse année niveau pollen.
Ah
on
bah
le
oui,
voit.
Là,
bah nous aussi.
Ah oui,
on est sur une
pareil.
Très très grosse année là. Oui, oui, oui.
On le voit là. Moi, je vois dans ma rue sur les voitures un peu sombres cette fine couche de poudre jaune. Et pas la peine, les enfants, de vous rappeler vos cours de SVT du collège. Les abeilles, le pollen, elles kiffent.
Mais en plus, donc, en plus de ça, Arthur, il y a un effet confinement.
Le calme environnemental avec un effet sur la flore. D'abord, imaginez des pistes cyclables pas empruntées, des chemins agricoles, des chemins forestiers pas piétinés. Résultat, des fleurs de pissenlit à la pelle, des haies d'aubépine qui se font plaisir, qui s'épanouissent, touffues et généreuses. Généreuses pour la faune, donc les abeilles en particulier, qui elles aussi profitent du calme. Imaginez. En temps normal, Mathieu, avec vos gros sabots, vous passez à côté d'un oiseau, il s'envole. Eh ben, m'a expliqué cet apiculteur alsacien, c'est pas un scoop, mais il me l'a dit quand même, pour les abeilles, c'est pareil. Or, il y a personne dans les sentiers, pas de bruit en forêt, les bûcherons sont à la maison, circulation automobile, évidemment, quasi inexistante, surtout en zone rurale. Pour utiliser un terme un peu scientifique, désolé, pour les abeilles, c'est la teuf.
Oh, vous êtes tellement pointu. Et je me sens qu'on perd des auditeurs, là. C'est trop complexe.
Je fais attention de ne pas lâcher les auditeurs. Pour être plus précis, le potentiel mellifère s'exprime à plein, dit-on, dans les Vosges du Nord. Pour finir, je lance un appel aux auditeurs qui circulent en voiture en ce moment. Est-ce que vous aussi, vous redécouvrez les joies, si on peut dire, des moustiques écrasés sur le pare-brise? Il paraît que ça revient. On avait oublié ça au fil des...
Ah, mais oui, c'est vrai.
Ben oui, ce serait évidemment une super nouvelle pour les vendeurs de liquide lave-glace et pour la planète. Petit rappel, ça fait 10, 20, 30 ans que les insectes disparaissent de notre environnement et avec eux ceux qui les mangent, donc les oiseaux et une bonne partie de notre biodiversité.
Donc les effets positifs du confinement, voilà, on aura du bon miel.
Ouais. On aura du bon miel et avec tout ce qu'on s'est mis là, parce que comme on est à peu près au régime depuis 49 jours, je peux dire que j'ai déjà pris 4 kilos. Si en plus on se met du miel derrière, on va finir vraiment joli en summer body, en mode winter body pour l'été. Merci voilà. Arthur Mbaché. Axel de Tarlé, votre sentiment à l'issue de la chronique de votre adversaire?
Si je ne gagne pas, bah c'est que c'est personnel.
Voilà.
Merci.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage de Mathieu Noël revient demain dès 16h sur Europe 1.